Aujourd'hui, 8 novembre, à Rencontre spirituelle, je vais devancer un peu car demain, c'est un anniversaire, une fête très importante dans l'Église et je n'aurai pas l'occasion de vous en parler car je vais consacrer l'émission de demain à la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, cette carmélite décédée en 1906 en France et qui est une mystique remarquable que j'aime beaucoup. J'avais reçu en 1944 un livre d'une amie de ma mère sur Sœur Élisabeth de la Trinité par le Père Philippon. Et je retrouve la dédicace de cet écrit. N'oublie jamais ta tante Berthe, c'était la meilleure amie de ma mère, qui était une fidèle disciple, on peut dire, de Sœur Élisabeth de la Trinité. Déjà en 1944, elle l'aimait déjà beaucoup. Et moi, je me préparais à rentrer au monastère de Saint-Benoît-du-Lac. Elle avait voulu nourrir ma spiritualité trinitaire, car la spiritualité d'Élisabeth de la Trinité est profondément trinitaire, comme l'indique son nom, le nom qu'elle avait choisi. Et les bénédictins ont eux-mêmes une spiritualité profondément catholique, donc trinitaire, profondément chrétienne. Demain, ce sera la fête donc de la dédicace de la basilique du Saint-Sauveur au Latran. Ça ne dit pas grand-chose à peu près à personne, mais c'est extrêmement important et vous le verrez tout à l'heure. Et ce sera aussi demain l'anniversaire du décès du général de Gaulle. Vous serez peut-être surpris que je parle de lui, mais vous savez que c'est un grand homme. On l'a un peu décrié ici et là au Québec, mais je crois que c'est un très grand homme. Un très grand chrétien aussi, un grand catholique aussi. Il est mort le 9 novembre 1970. Et enfin, je compte vous parler, puisque c'est leur fête aujourd'hui, des bienheureux Joseph Ngui, Paul Ngan, Martin Tin, Martin Tau et Jean-Baptiste Kou. Vous voyez par leur nom que ce sont des martyrs du Tonkin, c'est-à-dire du Nord-Vietnam. Ils sont morts en 1840. Ce sont, pour ainsi dire, les fondateurs, parmi d'autres, de cette grande église du Vietnam, grande église catholique, qui laisse ses traces ici à Montréal, car ils ont une paroisse. J'ai déjà assisté à la messe chez eux. On ne comprend rien, évidemment. Cette langue nous est inconnue. Mais on comprend tout quand on les voit prier avec autant d'intensité, avec leurs familles nombreuses et tous ces enfants. Et ces enfants très studieux, remarquablement studieux dans nos écoles, nos collèges, nos universités. Je commence donc par de Gaulle. Je m'inspire d'un texte de Jean Lacouture. Jean Lacouture a publié une immense étude sur de Gaulle. C'est un magistral ouvrage. De Gaulle en 3 volumes. Le rebelle, le politique, puis le souverain. Ce sont les titres des 3 volumes. Il a d'ailleurs tiré pour la télévision une série de 6 films à partir de ça. Il avait déjà publié un de Gaulle en 1965, avant la mort de de Gaulle. Mais il a publié aussi un ouvrage remarquable sur André Malraux, Une vie dans le siècle, en 1973. Et son merveilleux François Mauriac, un gros bouquin paru en 1980. Il m'avait remis, Jean Lacouture, lors d'une visite chez moi, ses 2 ouvrages sur André Malraux et l'autre sur François Mauriac, qu'il m'avait dédicacé en indiquant d'ailleurs la date de sa visite chez moi. C'était bien le 19 octobre 1980. Je l'avais reçu avec sa femme, ainsi que Jean-Étienne Blais et d'autres personnes. J'étais très heureux de rencontrer cet homme, Jean Lacouture, que Jean-Étienne Blais m'avait permis de mieux connaître. Un homme à la fois nerveux et remarquablement profond. Et ce qu'il écrit sur le général de Gaulle est remarquable. Oh, j'ai oublié de m'identifier au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. De Gaulle, selon Jean Lacouture, a certainement respecté tout au cours de sa vie ce qu'on appelle les gestes de la piété catholique. Il n'a jamais craint de se montrer debout ou à genoux dans une église. Il avait d'ailleurs reçu une éducation religieuse sérieuse. chez les maristes, chez les jésuites. Il était né d'ailleurs d'une mère très catholique et d'un père qui était convaincu aussi. Mais ça suffit peut-être pas à ranger de Gaulle sous la bannière du catholicisme, dira-t-on. Mais quand quelqu'un comme Jean Lacouture et d'autres que je vous nommerai tout à l'heure sont entrés dans l'intimité de ce personnage un peu secret sous le rapport de la foi, étant donné la séparation de l'Église et de l'État en France, eh bien on sait que Jean Lacouture se range dans le parti de ceux pour qui de Gaulle était un chrétien authentique. Un chrétien authentique. D'ailleurs, on a des photos de Gaulle en prière, avec livre de prière, ou se signant faisant le signe de la croix. D'ailleurs, ces photos sont remarquables. J'en ai une devant les yeux qui a été prise lors d'un voyage en Bretagne, dans la cathédrale de Quimper. C'est le dernier service religieux officiel auquel il a participé. Il est debout, il a son missel avec lui. Et c'est magnifique de le voir. Il était sérieux dans une église, même si on l'a photographié une fois, alors qu'il était un peu distrait. Que celui qui n'a jamais été distrait lui lance la première pierre. Hein, on est distrait, moi le premier dans une église, ça arrive, surtout dans des grandes cérémonies. C'est un homme solennel que de Gaulle, un grand homme d'État. Il y avait une fibre chrétienne, certaine, dans son cœur. On peut le ranger parmi ceux qui ont pu concilier ce qu'on appelle les rigueurs de la raison d'État avec l'appartenance vécue au monde de la foi et de la charité. En tout cas, une chose est certaine. Ce fondateur de la Ve République française s'en est tenu tout au cours de sa vie politique au principe évangélique là, qui distingue Dieu et César. C'est dans la bouche de Jésus qu'il faut distinguer Dieu et César. Jésus l'a dit, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. » C'était un chrétien et un catholique de conviction. Il s'est jamais mêlé à l'un et à l'autre à la fois. Il n'a pas voulu. On ne peut pas trouver trace dans son action de juin 1940 où il s'affiche comme homme politique à avril 1969, quand il quitte ses fonctions, on ne peut pas trouver trace, donc, d'un geste, d'une initiative ou d'une décision qui aurait pu mettre le pouvoir de l'État français au service de l'Église de France, au service de l'Église catholique, ou plus modestement, qui aurait permis, entre ces deux pouvoirs, la moindre interférence. Et parvenu à l'âge d'homme, dit Jean Lacouture, au moment de la séparation, n'est-ce pas, de l'Église et de l'État, c'est en 1905, ça. Il avait réprouvé d'emblée les modalités de cette séparation. Cet acte de la séparation de l'Église et de l'État en France avait eu lieu le 9 décembre 1905. La République française considérait la religion comme une affaire privée. Et aussi, la République française refusait donc d'en prendre charge ou de prendre en charge aucune manifestation catholique. Et cette application de ce nouveau régime s'est faite au milieu de heurts épouvantables en France. Ça a été très dur, très difficile cette séparation de l'Église et de l'État. Moi, je ne suis pas contre. Mais je crois que normalement, les chefs d'État qui sont catholiques peuvent et doivent s'afficher normalement, calmement, sans laisser interférer quoi que ce soit de leur foi dans leur action, mais leur foi doit être sous-jacente et nourrir au fond, à la racine, leur don d'eux-mêmes au service de la population. Une fois, le général Charles de Gaulle a jugé bon de situer son action comme chrétien. C'était à l'origine même de sa mission, qu'on pourrait appeler sa mission historique. C'était à Londres. Ceux de mon âge se souviennent de ça. Moi, je suis né en 26, alors je me souviens. Dans l'été 1940, quand il a annoncer au monde son désir de libérer la France. Quand il avait fait cet appel aux Français. Mais aussi, en 1940, il avait été pressé par les Anglais, où il était, à Londres, il avait été pressé par eux de donner de lui-même une définition qui aurait permis de le faire mieux connaître à l'opinion anglaise. Alors il leur aurait mis un texte qui commençait de cette façon-là. « Je suis un Français libre. Je crois en Dieu et en l'avenir de ma patrie. » C'est ce type de propos, hein, qui, semble-t-il, devait être sans lendemain, mais c'est pas vrai. Il a participé souvent à des cérémonies religieuses partout, hein, au Moyen-Orient, au Cameroun, à Alger, en pays musulman, ou à Rome. D'accord, ça suffit peut-être pas à manifester vraiment son appartenance là, à l'univers intime des croyants. On peut dire que ce sont des gestes extérieurs. Mais selon Jean Lacouture, on peut dire que dès son entrée dans l'histoire, le général de Gaulle, qui était un homme d'État laïque, d'un État laïque, demeure un croyant quand même, mais d'une façon très discrète. Quelqu'un lui avait demandé s'il va à la messe. Il avait dit oui, oui, et puis après. Comme si ça ne le gênait pas de le dire, et ça n'interfère pas du tout avec le don de soi-même, avec l'intégrité, avec l'honnêteté. On a vu la même chose il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, qui entendait devant lui que plus personne n'allait à la messe. Et il avait dit aux journalistes, mais moi, j'y vais. J'ai prêché une retraite, d'ailleurs, dans la paroisse où il habite, à Québec, la paroisse des Saint-Martyrs canadiens, à Sillery. J'ai prêché toute la semaine dans cette paroisse où les gens sont vraiment merveilleux. J'ai beaucoup aimé et le curé et les prêtres qui habitent dans cette église, dans cette paroisse, et la religieuse tout simple qui nous faisait de bons repas. Et les gens qui sont venus à cette retraite, qui étaient par centaines. Et je passais souvent, quand je faisais ma promenade, devant la maison, sur la rue des Braves, devant la maison, tant discutée, du chef de notre État, qui a bien le droit d'avoir une maison raisonnable pour recevoir, il me semble, à Québec, c'est normal, tous les chefs d'État ont une maison. Hein. Il me semble que monsieur Jean Chrétien, Premier ministre du Canada a une splendide résidence à Ottawa, et ce n'est pas une mauvaise chose. On a pu voir que c'est bien nécessaire encore ces jours-ci, le drame qui a failli surgir. Parlant un jour avec André Malraux de la religion du général, Jean Lacouture a entendu Malraux répondre, lui répond, « Je ne suis pas plus certain que de Gaulle ait été croyant. Que je ne sois assuré moi-même de mon incroyance. Hein? » Vous savez qu'André Malraux était incroyant. Mais Jean Lacouture rejette cette phrase, car il considère que André Malraux n'avait reçu qu'une éducation extrêmement laïque. Il ne comprenait pas de l'intime, de l'intérieur, ce qui pouvait se passer dans le général de Gaulle, dans son âme. Et pourtant, Malraux était très gaulliste, très près de De Gaulle. Mais Jean Lacouture, qui a reçu, lui, une formation chez les jésuites, c'est pour ça qu'il a écrit, d'ailleurs, un immense ouvrage sur les jésuites, hein, des tomes énormes qu'il a publiés récemment. Extrêmement intéressant, il faut lire ça, c'est passionnant à lire. Ça se lit comme un roman. Moi, j'ai lu le premier tome en quelques jours, c'est énorme. J'ai rarement lu aussi rapidement un ouvrage tellement Jean Lacouture est un auteur vivant. Et Jean Lacouture comprenait Charles de Gaulle de l'intime et voyait bien que c'était un croyant. Les péripéties de la carrière de Charles de Gaulle ont été marquées toujours par l'influence de sa mère, profondément chrétienne, je vous l'ai dit. Son père, qui était un catholique de tradition, était aussi un catholique d'action. un catholique d'enseignement, de militantisme même, car il a été cofondateur de la conférence Olivain. Qu'est-ce que c'est que la conférence Olivain? Ça porte le nom de Pierre Olivain, qui était le supérieur des jésuites de Paris, qui a été fusillé lors des troubles de la Commune en 1871. Et M. de Gaulle, le père de Charles, a aussi été près des jésuites, des maristes. Il ne semble pas avoir renié ce qu'il avait reçu. De sa mère, Charles de Gaulle tenait une combativité, dit Jean Lacouture, dans l'affirmation des croyances. Ça prenait diverses formes. Ça s'est affirmé notamment dans sa fidélité à un certain christianisme social. Et de son père, il a reçu une culture très riche sur les terrains de la philosophie et de l'histoire. Il était très informé des relations entre le pouvoir et la foi dans l'histoire de l'Occident chrétien. Il avait aussi une ouverture curieuse sur d'autres spiritualités. Il faut signaler, et c'est intéressant, que Charles de Gaulle avait lu le Coran au temps de son adolescence. C'était très tôt. L'influence paternelle a été très forte. Parce que Henri de Gaulle, son père, racontait volontiers la conversion par ses soins de son père, Julien Philippe, qui s'était longtemps défini comme voltairien, au grand émoi de la famille de Gaulle du 19e siècle. Quant à ses maîtres au collège de l'Immaculée Conception de la rue de Vaugirard, du collège belge d'Antoin ou du collège Stanislas, on ne voit pas qu'il ait marqué à leur égard le moindre éloignement. Il n'a jamais critiqué ses anciens professeurs religieux, Charles de Gaulle. Un de ses tout premiers textes, et même un éloge de ce qu'on appelle la congrégation, qui fut un des avatars, si on peut dire, de la Compagnie de Jésus au temps de ses grandes épreuves au début du 19e siècle. Il a pris ses distances à l'égard de cette formation originelle, mais il n'en a pas laissé rien paraître, peut-être. En tout cas, tout au long de sa vie, la publique comme la privée, à l'occasion de ses voyages officiels, comme de ses séjours à Colombey-les-Deux-Églises, on a toujours vu de Gaulle attentif à ne pas manquer l'office. Il semble-t-il, il faisait ses Pâques, il se confessait, il communiait. C'est ça, le faire ses Pâques, hein, se confesser et communier. Et que tel ou tel de des citoyens de son village l'ait vu manifester à la messe le dimanche une espèce de distraction, je vous l'ai dit. Hein, il était peuplé de bien des problèmes, son cerveau. Et il a toujours été présent à la messe. Jean Lacouture se range donc parmi ceux qui tiennent le général de Gaulle pour un croyant, bien au-delà des apparences. Et c'est pour des raisons qui sont trouvées dans des témoignages, dans sa correspondance, dans sa vie privée. Vous savez que dans sa correspondance, il y a de très beaux textes. Il écrivait à Monseigneur Saliège, le futur cardinal Saliège, dont je vous parlerai un temps, qui était archevêque de Toulouse. Il a écrit de Londres en 1942 une brève lettre dont je vous lis ce petit passage. Les remous profonds que provoquent dans les âmes françaises certains aspects de l'atroce situation dans laquelle se trouve notre pays, la France, m'amènent à exposer en toute confiance à votre grandeur l'alarme que j'en ressens comme chrétien et comme français. À sa fille Élisabeth, quand Anne, la fille de Gaulle, qui était malade, très malade, à la fois physiquement, mais surtout mentalement. Vous savez qu'ils ont eu une enfant très, très malade, Anne. Elle est morte à 20 ans. Alors, il écrit en 1948 à sa fille Élisabeth cette belle petite lettre. « C'est une âme libérée, mais la disparition de notre pauvre enfant, souffrante, de notre petite fille sans espérance, nous a fait une immense peine. Je sais qu'elle vous en fait aussi. » Il écrit à sa fille, puis il la vouvoie, hein, c'est la coutume à l'époque. « Je sais qu'elle vous en fait aussi. Puisse la petite Anne nous protéger du haut du ciel. » Et cette belle lettre au père Élie Alfort, au couvent des Carmes à Avon. J'ai déjà fait une retraite à Avon, au couvent des Carmes. J'ai connu le père Élie Alfort, qui m'a offert d'ailleurs un ouvrage dont parle ici de Gaulle. C'est un ouvrage sur le père Louis de la Trinité, qui était l'amiral Thierry d'Argentlieu avant qu'il ne se fasse carme. Votre ouvrage, mon père, intitulé « Le père Louis de la Trinité, amiral Thierry d'Argentlieu », m'a beaucoup intéressé, ému et aussi édifié. Je vous remercie pour ma part de l'avoir écrit, et je vous suis reconnaissant de me l'avoir adressé. Ma lettre part de la maison de Colombey, Colombey les deux églises, dans laquelle le père d'Argentlieu, ce carme qui était amiral, le père d'Argentlieu disait la messe devant les miens et devant moi quand il lui arrivait d'y venir. Dieu a voulu qu'un religieux, ardent serviteur de la foi et de son ministère, ait été lié de près à ce que j'ai pu tenter de faire pour la France. J'en remercie notre Père du ciel. Il a écrit aussi à Madame François Mauriac, à l'occasion de la mort de ce grand écrivain François Mauriac, dont je vous parlerai évidemment, lettre datée du 1er septembre, le jour même de la mort de François Mauriac. « Chère Madame, dans le grand chagrin qui vous frappe, laissez-moi vous dire que ma pensée et ma prière, auxquelles ma femme joint de tout cœur les siennes, sont auprès des vôtres et de celles de votre chère famille. » Et là, en parlant de François Mauriac, il dit des choses magnifiques. Hein? « Son souffle s'est arrêté. C'est un grand froid qui nous saisit, qu'il s'agisse de Dieu ou de l'homme, ou de la France, ou de leur œuvre commune, que sont la pensée, l'action et l'art. Son magnifique talent savait, grâce à l'écrit, atteindre et remuer le fond des âmes. » C'était un grand croyant. Et c'est André Frossard qui a aussi écrit de très belles pages, dans un livre intitulé « La France en général » avec un G majuscule. Ah, il a consacré des pages magnifiques. S'il est plus émouvant, peut-être qu'on ait écrit sur le général de Gaulle, cet homme mystérieux, ses rapports avec le catholicisme. C'était le cardinal d'Aliénou qui, peu de temps avant la mort du général de Gaulle, songeait à la béatification. Ça me semble un peu absurde. Je n'irai pas jusque-là. Mais pourtant, le cardinal d'Aliénou était un homme brillant que j'ai connu aussi intimement. Quel homme merveilleux que le cardinal d'Aliénou. Quelle humilité chez cet homme. La carrière du général semble traverser évidemment d'orages, de violences, de répressions. Il a été très dur parfois dans l'exercice de son pouvoir. Les grandes causes, les hautes vertus, les nobles pensées étaient vécues. Mais peut-on y voir des signes de sainteté? De toute façon, un intime du général de Gaulle, un grand intime, c'était Rémy Brouillet, catholique militant, résistant héroïque, plus proche compagnon de Georges Bidault au temps du CNR. Le CNR, c'est évidemment le Conseil national de la résistance. Là. Et par deux fois, de 44 à 46 et de 59 à 64, il a été chef de cabinet du général. Il a été ensuite ambassadeur de France auprès du Vatican. Et comme tel, il était organisateur et témoin des entretiens du général de Gaulle avec le pape. Eh bien, nul ni plus compétent en ce domaine que ce monsieur Brouillet. Ou sinon, les directeurs de conscience de Charles de Gaulle, qu'on ne connaît pas bien. Nul plus que monsieur Brouillet, se fondant aussi bien sur des réflexions au jour le jour du général que sur telle ou telle de ses allocutions au clergé de Rome ou à la communauté française de cette ville, ne se prononce plus nettement sur la foi chrétienne profonde du fondateur de la Ve République. Religion de convenance, comportement catholique du type de ceux qu'un Maurras voulait voir le maître du pouvoir français adopté. C'était pas ça. C'était beaucoup plus que ça. Il suffit de lire le dernier tome de la correspondance de Gaulle tel qu'il a été publié chez Plomb pour vérifier la force de la foi de Gaulle. Il parle toujours d'un retour à la lumière de Dieu au moment de la mort. Et au soir du 9 novembre 1970, à la seconde où la douleur lui a arraché le dernier cri, on peut dire que ce que le général de Gaulle a entrevu ou cru entrevoir n'était pas seulement ce que chacun d'entre nous peut écrire avec les mots de chaque jour. Mais nous passons maintenant à cette fête que l'on célébrera dans l'église à compter de ce soir, puisque ce seront les premières vêpres, la dédicace de la basilique du Saint-Sauveur au Latran. Bon, pourquoi parler de ça? Je lis dans le prions en église, vous savez que ça existe, il y a des prions en église pour tous les jours de la semaine. Il n'y a pas que la petite publication qu'on trouve dans nos bancs le dimanche. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à ça. Ça vaut la peine, c'est merveilleux que de s'abonner aux prions en église que l'on reçoit par le courrier à peu près un mois avant que le mois commence. Ça coûte pas grand-chose, hein. C'est $14.79 par année pour 12 numéros, vous imaginez? Alors donc, pour le 9 novembre, il est dit « Dédicace de la basilique du Latran ». Et on explique en 6 lignes, ou 7 lignes, après que l'empereur Constantin, qui est le premier empereur catholique, chrétien, après que l'empereur Constantin eut assuré à l'Église la paix et un statut privilégié, il érigea, en l'an 320, la basilique du Latran. Pourquoi? On dit pour servir de cathédrale au diocèse de Rome et en faire comme le symbole de l'unité de l'Église universelle. D'autre part, les textes de la messe sont sublimes, je ne vous les lirai pas. Je me contente d'ouvrir ce petit propos sur ce sujet en priant avec vous, en récitant avec vous cette prière du tout début de la messe. Dieu Père, qui choisit des pierres vivantes, c'est nous ça, hein, qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire. Fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné, que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que c'est ça, l'édification de la Jérusalem? L'édification, ça veut dire édifier comme un édifice, comme on construit. C'est pas l'édification dans l'autre sens. L'édification de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est le ciel. C'est là où sont les saints dont je vous parle tous les jours. C'est très beau, cette prière. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Or, dès le premier siècle, à Rome, la vieille famille des Laterani, Latran, Laterani, possédait un palais splendide, dit-on, sur le versant du mont Caelius, qui était situé alors hors des murs de Rome. Et l'empereur Néron, trop connu, n'est-ce pas, l'a confisqué à un des Lateranus, ou les Laterani, si en latin on dit « i » à la fin, qui s'appelait Plautius. Il avait été accusé d'avoir comploté contre lui. Il a fait construire alors une vaste caserne qui était destinée aux cavaliers d'élite, qui formait la garde du corps de l'empereur. Alors, la construction du mur, qu'on appelle le mur d'Aurélien, le mur de Rome, a fait entrer, parce que ça a grandi Rome, a fait entrer le Latran dans la ville de Rome. Et les cavaliers ont constitué les cadres de l'armée de l'empereur Maxence, ce qui leur a valu d'être supprimés finalement par l'empereur Constantin, qui était le premier empereur chrétien, aussitôt après sa victoire. Alors, leur caserne était libre. Il n'y avait plus de cavalier là. Il l'a donné aux chrétiens, cet empereur chrétien, avec les maisons voisines qui appartenaient au fisc. Alors, Rome possédait déjà un bon nombre d'églises paroissiales. Et avec la donation du Latran, a commencé la création de basiliques, dont le rôle était différent. ces basiliques devaient servir aux grandes assemblées réunies à l'occasion des fêtes du Seigneur Jésus-Christ et des saints. Et alors que les églises paroissiales, elles, avaient été placées dans des quartiers peuplés, les basiliques furent presque toutes situées en dehors des murs, sur les tombes des martyrs. C'est comme ça que la basilique Saint-Pierre de Rome est construite sur la tombe de ce grand martyr qui est Saint-Pierre. On peut visiter ça quand on va à Rome. Les traces du corps de Saint-Pierre ont été trouvées sous le pape Pie XII, sous son règne, par des recherches et des archéologues extrêmement sérieux, et on a les preuves concrètes totales que Saint-Pierre était vraiment enseveli, exactement sous l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre, où le pape célèbre officiellement la messe, comme pape, comme évêque de Rome, mais comme pape de l'Église entière, de l'Église universelle. Or, l'Église du Latran et de la Sainte-Croix de Jérusalem, qui par exception sont à l'intérieur de l'enceinte, sont quand même à la périphérie de Rome. Alors pourquoi l'empereur Constantin a-t-il installé le pape au Latran, qui est un quartier, comme on dit, excentrique, en dehors de la vraie vie de Rome? C'est des raisons d'économie. Pas besoin d'expropriation. Une bonne partie des bâtiments existaient déjà. Ça n'exigeait que des transformations minimes, en somme. C'est des raisons de politique aussi. L'installation des chrétiens dans la région du Forum, par exemple, serait peut-être considérée par les païens comme une provocation. Et peut-être aussi, doit-on supposer que le pape avait déjà pris pied au Latran. S'il est vrai que les origines du baptistère que l'on voit au Latran remontent au-delà de Constantin. Ce baptistère est toujours là. J'ai assisté, moi, à une grande cérémonie de baptême d'adultes dans la nuit de Pâques en 1950 au baptistère du Latran, aux sources mêmes de notre foi chrétienne. Grande cérémonie extrêmement impressionnante. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on sait que dès octobre de l'an 313, moins d'un an après la bataille où Constantin a remporté la victoire, bien le pape Miltiade, ou si on préfère Melchiade, qui était né en Afrique, là, dans les pays qui sont devenus musulmans, c'est lui qui avait institué l'usage du pain béni. Eh bien, le pape Miltiade a réuni un concile dans la maison, dit-on, de Fausta au Latran. C'est dans les vieux textes. Les travaux d'aménagement, donc, étaient déjà commencés. Ils devaient se poursuivre pendant tout le règne de Constantin, qui a doté richement la basilique du Latran et plus encore, évidemment, le baptistère. Et suivant l'ancien usage, bien, la basilique a été désignée par le nom de son fondateur, Constantin. Et le nom de Latran continuant à être employé en même temps. Puis apparut le vocable religieux de Saint-Sauveur, finalement. La basilique du Saint-Sauveur au Latran, elle porte ce nom. Mais cette est plus ou moins supplantée dans l'usage courant, et aujourd'hui elle est surtout connue sous le nom de Saint-Jean de Latran. On ignore l'année et le jour de la dédicace de la basilique. Le 9 novembre, c'était déjà la fête traditionnelle, quand Jean Diacre a écrit à la requête du pape Alexandre III, qui était né à Sienne, sa description du Latran, qui a été choisi pour des motifs inconnus. Quant à l'année, on en a proposé plusieurs, de 315 à 325, on n'a aucune preuve. Cette époque est cependant évidemment vraisemblable. Donc la basilique du Latran a été construite par Constantin à la place de la caserne des cavaliers, détruite et comblée, à l'exception de certains murs utilisés tels quels, la façade entre autres. L'autel papal ne contient en guise de relique, savez-vous quoi? Qu'un très 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 vieil autel en bois. Habituellement, il faut mettre des reliques de martyrs. Or, en supposant qu'il n'y avait pas eu d'église avant Constantin, la légende a prétendu que l'autel de bois du Latran était l'autel portatif, dont se servaient les papes au temps des persécutions pour célébrer la messe où ils pouvaient dans les catacombes. Et si cet autel sans relique est depuis longtemps une espèce d'Allemagne, c'est qu'il n'a pas été modifié depuis le début du IVe siècle, l'époque où les églises dans les villes, les cathédrales, les paroissiales, n'avaient ni saint patron ni relique. C'est des qualités qui caractérisaient les basiliques des martyrs situées en dehors de l'enceinte. Là. Alors le Latran, basilique du Latran, a progressivement perdu la plupart de ses caractères anciens. La création d'une espèce de confession, vous savez, on descend sous l'autel par le pape Serge II, ça a permis de placer des reliques, sinon dans l'autel proprement dit, au moins dessous. C'est sous le pontificat d'ailleurs de Serge II que les musulmans ont assiégé Rome, où ils ont saccagé la basilique Saint-Paul hors les murs, puis d'autres églises. C'était des Turcs qui ont été battus finalement par les Romains à Gaète. Ils ont été chassés finalement. Il est possible que les origines du baptistère, où j'ai assisté, comme je vous ai dit, à la cérémonie du samedi saint en 1950, à des baptêmes, eh bien, les origines de ce baptistère ont pu être antérieures à Constantin, je vous l'ai dit, et les fouilles ont révélé que le premier baptistère avait été installé, vaille que vaille, dans une pièce voisine d'une salle de bain. Une salle de bain, c'était des grandes salles de bain dans ces palais. Le second baptistère, mieux conçu, n'a pas dû servir longtemps. C'est le troisième, plus vaste, de forme ronde. C'est là que je suis allé, couvert d'une coupole qui est l'œuvre de Constantin. Mais on doit attribuer à une époque assez avancée de son règne. Il a été remanié par le pape Sixte III au 5e siècle, mais plus heureux que la basilique il y a depuis. Cette époque-là, il a traversé les siècles sans être trop défiguré. C'est à visiter. Il a reçu, d'accord, une décoration plus ou moins tapageuse au 17e siècle. De toute façon, du palais pontifical qui a abrité les papes au 4e siècle jusqu'au 14e siècle, il ne reste presque rien. Et l'actuel palais du Latran, bien, c'est l'œuvre d'un architecte de Sixte Quint au 16e siècle, Fontana, qui a fait disparaître à peu près tout ce qu'il y avait du Moyen-Âge. Il y a là la Scala Santa, ou ce qu'on appelle le Sancta Sanctorum, le Saint des Saints, ou l'escalier saint. Ça garde le souvenir de l'ancien trésor du Latran. C'est l'ancien escalier du palais papal, qu'à la fin du Moyen-Âge, la légende a transformé en escalier du palais de Pilate, celui que le Christ aurait monté durant la Passion, la Scala Santa. Moi, j'ai monté ça à genoux dans le temps, en 1950. J'étais jeune, j'avais 24 ans. La vénération, d'ailleurs, dont il a été l'objet, ça lui a valu des chapelles à destruction. L'architecte Fontana l'a déplacé pour qu'il conduise au Sancta Sanctorum, le Saint des Saints, qui dut son surnom à l'extraordinaire richesse de son trésor de reliques. On dit même que les dépouilles du temple de Jérusalem imaginé, rapportées à Rome par Titus, l'empereur, auraient figuré au Latran jusqu'au pillage commis par des troupes vandales du roi Genséric en 455. Bien d'autres reliques ont disparu au cours des âges, mais celles qui ont été conservées sont innombrables. Leur inventaire, en 1905, révéla de merveilleux reliquaires qui sont aujourd'hui la gloire du musée chrétien au Vatican. Aussi bien, malgré les ruines et les restaurations malheureuses, le pèlerin attentif doit se révéler. Il voit se révéler les nombreuses traces d'un passé glorieux dans toutes sortes de détails de cette basilique qui, de toutes les églises de la ville et du monde, est la mère et la tête. Avant de commencer, je voudrais simplement vous dire l'antienne de la communion de la messe en l'honneur de cette grande église dont je viens de vous parler. C'est un texte tiré de la première épître de saint Pierre, au chapitre 2. « Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Or, les saints sont justement les grandes pierres fondamentales, avec le Christ, évidemment, c'est le Christ qui est le fondement de l'Église, la pierre d'angle, mais les saints l'accompagnent. Et aujourd'hui, c'est une grande fête, le 8 novembre, le jour où ces saints et bienheureux dont je vais vous parler ont été jugés. Ils ont été jugés irréductibles, ils ont été conduits au supplice le 8 novembre 1840. Ça commence le 30 mai 1840, à 3h30 du matin. C'est le gouverneur de Nam Dinh, dans le nord du Vietnam, Trinh Quang Khan. Il a encerclé avec 1000 soldats et 3 éléphants de guerre le village de Khe Bang, où il avait appris, par un traître, que des prêtres catholiques étaient cachés. Dès le lever du jour, il a fait rassembler tous les hommes. Il a envoyé ses soldats fouiller le village. Ils ont sondé les maisons pendant toute la journée sans résultat. Ils ont recommencé le lendemain. Ils ont trouvé dans la maison d'un certain Douyen, un prêtre d'une 50aine d'années, Joseph Kim. J'ai déjà rencontré un prêtre catholique qui s'appelait Joseph Kim. C'était le curé de Khe Bang, et qui, depuis son ordination, se faisait appeler Nguy, Joseph Nguy. N-G-H-I. Les soldats ont découvert ensuite, chez Martin Tho, son vicaire, Paul Ngang, qui béatifie aussi Paul Ngang, N-G-A-N. Les soldats leur mirent la gangue autour du cou, sans pour autant arrêter leurs recherches, qui ont été poursuivis avec plus de brutalité le troisième jour. Ils ont démoli beaucoup de maisons, ils ont enchaîné les chrétiens qui avaient caché chez eux des objets de piété. Ils ont fini par trouver chez Jean-Baptiste Cou, C-O-U, un prêtre octogénaire, donc de plus de 80 ans, Martin Tin, alors curé de Khe Trinh. Le gouverneur a gardé prisonniers les 3 prêtres et les 2 laïcs coupables de les avoir hébergés, Martin Tho, T-H-O, et Jean-Baptiste Cou. Ces 2 derniers, ces laïcs, nés à Khe Bang, le premier en 1787 et le second en 1805, avaient abandonné leur charge de collecteur des impôts pour vivre en simple cultivateur. Il manquait pas de courage. Que ces orientaux m'émerveillent par leur courage, moi. Quand je lis ces choses-là, je suis toujours bouleversé. J'en ai si peu. On devrait tous ensemble les invoquer, leur demander de nous donner un peu de courage. Or, dès le début de la persécution, Martin Tho était venu habiter le presbytère de Khe Bang pour le sauver de la confiscation. Jean-Baptiste Cou n'avait pas craint, lui, d'engager un procès devant le mandarin contre un magistrat sans scrupules, puis avait obtenu sa révocation. Or, après une invitation à apostasier, suivie d'un refus, le gouverneur a fait exposer en plein soleil les 5 prévenus. C'était le 3 juillet 1840. Le 6 juillet, ils ont reçu chacun 50 coups de fouet. Puis les 2 laïcs ont été contraints à marcher sur la croix. Ils ont déclaré qu'ils ne pécheraient pas si on les forçait et ils ont invoqué Jésus et Marie. Et comme punition de leur résistance, ils ont dû lécher les plaies des prêtres, ce qu'ils ont fait avec joie. On les a exposés encore au soleil. Supplice plus pénible encore cette fois, puisqu'ils étaient couverts de plaies. Pendant de longs mois, ces 5 prisonniers ont dû subir un emprisonnement abominable. C'était entrecoupé de tortures variées et très raffinées. 2 fois cependant, ils ont eu la joie de recevoir la communion. Comme je vous ai dit, le 8 novembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1840. Il y a 155 ans seulement. Ils ont été jugés, conduits au supplice. Et le vieux prêtre, Martin Tin, cet octogénaire, a été porté dans un filet. On lui a coupé la tête d'un coup d'épée. Léon XIII les a béatifiés le 27 mai 1900. Je vous ai dit que je vous parlerai de Chusaku Endo. À ma connaissance, il est toujours vivant. Il est né en 1923. Il a fait une partie de ses études en France. C'est un écrivain. Il a été couronné par les plus grands prix littéraires au Japon. Son œuvre est traduite en plus de 20 langues. Selon Graham Greene, le grand écrivain catholique, dont les préoccupations ont rejoint si souvent les préoccupations de Shusaku Endo. J'épelle son nom. S-H-U, accent circonflexe. S-A-K-U. Puis Endo, le nom de famille, c'est E-N-D-O, accent circonflexe. C'est une des œuvres les plus importantes de notre temps que l'œuvre de cet homme. On a dit de lui, dans le Times, à présent que Mishima n'est plus, un écrivain dont l'importance nous avait échappé devrait prendre la place qui lui est due. Et je pense à un homme tel que Shusaku Endo. Ça dépasse les frontières du Japon, évidemment. Graham Greene, d'ailleurs, disait « un des meilleurs romanciers de notre temps, je vous le rappelle. » Un homme très important. Ce qu'il faut lire surtout de lui pour nous chrétiens, c'est peut-être le roman « Silence ». On dit de ça le meilleur roman japonais que j'ai jamais lu. C'est Graham Greene qui a dit ça. Shusaku Endo a fait revivre là la chasse aux chrétiens à laquelle se sont livrés les princes bouddhistes du XVIIe siècle. Et il nous offre là un étonnant témoignage de l'héroïsme et de la cruauté du tempérament japonais. D'un livre profond et subtil, moi j'ai dévoré ce livre. C'est une interrogation angoissée sur les chances d'implantation au Japon d'un christianisme qui semble incapable jusqu'à maintenant d'y prendre racine. Ils ne sont que quelques centaines de milliers de catholiques, et Endo est un des plus grands catholiques japonais, et l'un des plus grands romanciers, sinon le plus grand. C'est formidable. Un autre livre que je vous recommande, mais celui « Le silence » est publié chez Kalman Levy, il y a plusieurs années, et « Douleur exquise » est publié chez De Noël. Ce sont des nouvelles. Ah, c'est passionnant à lire, c'est merveilleux. Je vous le recommande, je vous les recommande profondément. La musique que vous avez entendue au cours de cette émission, c'est des œuvres de Gabriel Fauré, un hommage au général de Gaulle de ma part. Ce disque compact est disponible à Radio Ville-Marie. Pour le commander et vous aider en même temps Radio Ville-Marie, vous n'avez qu'à composer 382-3913. 382-3913, du lundi au vendredi, de 9h à 5h, alors qu'il y a une téléphoniste bénévole qui travaille.